soir. Dans une interview accordée le week-end dernier au journal allemand Der Spiegel, le chef de l'État Joseph Kabila s'est exprimé sur la situation politique de la RDC, notamment l'organisation des élections et la question sur l'éventualité d'un troisième mandat. Le gouvernement congolais accepte toute collaboration avec les Nations Unies dans les enquêtes sur toutes les violences survenues dans l'espace kassaïen. Déclaration de la ministre congolaise des droits humains qui précise que le gouvernement va garder la direction de ces enquêtes. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans la tribune de la presse. Autour de cette table, nous avons Jean-Jeff Mwanza, il est directeur général de l'agence de presse Vision. Bonsoir Jean-Jeff Mwanza.
Bonsoir Guy, bonsoir aux spectateurs, n'est-ce pas, aux auditeurs, voulais-je dire, de la radio Capi.
Edmond Idzouba, il est journaliste à la RTVS, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Edmond Idzouba.
Bonsoir Guy Maté aussi. Bonsoir, un grand bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi à Kinshasa, mais aussi ceux qui nous suivent à l'intérieur du pays.
Cyprien Lusenge, journaliste et reporter à la radio-télévision Michapi, émettant de Goma. Bonsoir Cyprien Lusenge.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tout le monde qui nous écoute maintenant là.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder les débats de ce soir, Alain Hirung revient sur les sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On l'écoute dans cette revue de presse.
Bonsoir. Cette revue de presse commence par l'interview que le président Joseph Kabila a accordée le week-end dernier au journal allemand Der Spiegel. Le potentiel titre dans sa livraison de lundi dernier, Interview de Kabila à Der Spiegel, contradiction et langue de bois. Le quotidien doit poursuivre notamment que le choix du support intrigue, à savoir un hebdomadaire allemand, le même qui avait annoncé le report de la visite du pape François à Kinshasa. Joseph Kabila affirme le journal donne ses réponses mais ne répond pas aux questions quand il dit par exemple « Je n'ai rien promis, j'aimerais que les élections se déroulent le plus tôt possible. Mais nous voulons des élections parfaites, pas n'importe quelles élections. » Concernant l'enquête internationale réclamée par les Nations Unies aux autorités congolaises sur les violences dans la région du Kassai, RadioCapi.net note à sa une que le gouvernement de la RDC reste ouvert et accepte la collaboration de l'ONU pour une enquête internationale sur les violences au Kassai, a affirmé mardi 6 juin dernier, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa. Elle réagissait ainsi à la menace des Nations Unies qui attendait d'ici jeudi des engagements de l'exécutif congolais sur des investigations concernant les violences dans la province du Kassai. Quelques jours avant, les journaux quinois relayaient les menaces onusiennes. Kassai, l'ONU exige à Kinshasa des réponses appropriées d'ici deux jours. Écrivez à sa une actualité.cd. Le site note ainsi que le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, avait affirmé attendre dans les deux jours à venir des engagements de la RDC au sujet des enquêtes relatives aux violences qui secouent la région du Kassai. Le potentiel estime que les Nations Unies et la communauté internationale ne laisseront pas impunis l'assassinat de l'Américain Michael Sharp et de la Suédo-Chilienne Zaida Catalan en mars dernier dans le Kassai. Le Phare indique que le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme accuse Kinshasa d'avoir rendu volontairement inaccessibles aux observateurs étrangers les zones sensibles où ont été commis et continuent de se commettre des massacres et violences de toutes sortes. La Prospérité indique pour sa part que la menace onusienne intervient après que 262 ONG congolaises et 9 organisations internationales avaient pressé début juin le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme d'établir une commission pour enquêter sur les violences meurtrières qui secouent la région du Kassai depuis août 2016. Terminons par l'avenir qui note requête de l'ONU sur le meurtre de deux experts. La RDC exige la direction de l'enquête. Écrit l'avenir à la une. Le journal signale que le gouvernement congolais a acté les procès qui ont commencé aussi bien à Kananga qu'en Mbujimayi pour montrer sa bonne foi dans la poursuite des auteurs de ces crimes.
Merci Alain Hirung. Un commentaire Jean-Jeff Mwanza. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence de presse Vision Info. L'actualité a aussi été dominée cette semaine par la hausse du prix des carburants à travers la RDC. L'augmentation est de 80 francs congolais par litre d'essence, de gazole et du pétrole.
Oui, il faut dire que nous avons tous, je ne dirais pas été surpris, mais on le savait déjà parce que lorsqu'on a vu qu'à trois reprises, les dollars, les taux des dollars a dû augmenter et le prix d'un litre d'essence, n'est-ce pas, à la pompe n'avait pas du tout augmenté et que ce dernier ne pouvait pas rester, n'est-ce pas, dans leur position, il fallait tout simplement qu'ils puissent aussi revoir leur prix, même si ça fait mal. Et on s'est dit, à l'allure où vont les choses, si les taux des dollars ne restent pas à 145 tel qu'il se trouve aujourd'hui, s'il augmente encore, ça sera forcément difficile pour l'avenir.
Edmond Itzouba, journaliste à la RTVS, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa, il est dit que cette majoration ne pourra pas impacter les tarifs des transports.
Exactement, parce que tout s'élabore autour des chiffres et des pourcentages, et quand vous calculez bien, vous avez pratiquement une augmentation de 5%. Il y a hausse quand l'augmentation dépasse, je crois, 8 à 9% ou au-delà de 5%. À ce niveau, donc, j'estime qu'il n'y aura pas augmentation du prix des transports en commun. Mais aussi, ce qu'il faut relever, cela fait partie de la politique gouvernementale de ce gouvernement de la transition. Il a annoncé, M. Bruno Tshibala, qu'il y aura certes l'élargissement de l'assiette fiscale pour ne pas trop imposer ou surcharger les contribuables ou les contributeurs aux régies financières. Donc, il y a déjà des prix en augmentation annoncés aussi pour la bière. Il y aura des taxes qui viendront s'ajouter comme telles, mais couvrir, allais-je dire, d'autres organisations, d'autres structures qui n'avaient pas l'habitude de payer des taxes. Donc, le Premier ministre, avec sa politique fiscale et le civisme fiscal qu'il veut instaurer à la population, c'est pour arriver à majorer les recettes et permettre à ce qu'il y ait l'atteinte de ses objectifs et de sa mission comme gouvernement de la transition, qui est celle d'organiser les élections. Donc, j'estime ça pour le moment, le choc ne sera pas du coup senti auprès de la population. Vous avez vu que l'augmentation a été faite. Il n'y avait pas de revendication du côté de vendeurs, des livreurs de carburant, mais plutôt ça s'est fait avec une très bonne collaboration entre les institutions, notamment avec le ministre de l'économie et le patron des pompes d'essence.
Merci Cyprien Lusenge, journaliste et reporter à la radio-télévision Michapi, émettant des Goma au Nord Kivu. Jean-Jeff l'a relevé, cette majoration n'était-elle pas prévisible vu la dépréciation que connaît les francs congolais depuis plusieurs mois?
Mais le problème, c'est qu'en ville de Goma, il y a une particularité, c'est une ville qui est plus de consommation, ce qui fait que cette instabilité du dollar, comme on le dit ici, a un impact pratiquement négatif sur le quotidien. S'il faut prendre le carburant, vous avez dit là, le problème, c'est que les privés peuvent... ne peuvent pas sentir cet impact, mais ceux-là qui ont mis leurs engins dans le transport public, nous appelons ici taxi urbain, et ça ne va pas permettre, d'autant plus que le carburant augmente de prix et les recettes restent les mêmes, et même les prix d'une course restent les mêmes. Ce qui fait que ceux-là qui ont accepté de mettre les engins dans la circulation en termes de taxis publics, dans les transports urbains, ils vont sentir cet impact, évidemment, qui ne sera pas grand. Mais le souci, je l'ai dit tantôt, la ville de Goma, c'est une ville de consommation. Une fois, ça bouge sans avoir une précision et ça impacte négativement sur la vie de la population ici localement.
Cyprien Lusenge, c'est quoi l'actualité aujourd'hui à Goma au Nord Kivu?
À Goma, il y a pratiquement trois semaines, les trois dernières semaines n'ont pas été douces pour la population. C'est-à-dire, il ne s'est passé plus une seule nuit, c'est-à-dire qu'il y a un coup de balle, un coup de feu tiré la nuit. Jusqu'à là, on a arrivé au minimum de 8 personnes tuées. Vous vous imaginez, jusqu'à ce qu'il y a un policier qui a rendu l'âme quand il était en train de défendre un shop de Ertelman. C'est-à-dire, d'une manière résumée, en ville de Goma, il y a la sécurité qui bat son plein. Les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une défaillance dans le système sécuritaire? Est-ce que c'est un message qui annonce un truc qui va déconner sur toute cette partie du pays? Et je veux dire, spécial, entre guillemets, dans ce genre de trucs. Donc la sécurité, en résumé, c'est ce qui domine l'actualité ici en ville de Goma.
Merci. Notre premier thème de ce soir, dans une interview accordée le week-end dernier au journal allemand Der Spiegel, le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est exprimé sur la situation politique de la RDC, notamment l'organisation des élections, et la question sur l'éventualité d'un troisième mandat. Dans cet échange qui a abordé plusieurs sujets, Joseph Kabila répond à ce qui concerne notamment son bilan, la non-tenue des élections en 2016 et l'éventualité de l'organisation d'un référendum pour se maintenir au pouvoir. Alain Hirung revient sur les grandes lignes de cette interview.
Abordant l'accord du 31 décembre arraché par les évêques congolais, accord qui inclut, poursuit la journaliste allemande, votre promesse d'organiser les élections avant la fin de cette année, le président Joseph Kabila affirme, je cite, « Je n'ai rien promis du tout, je souhaite organiser des élections aussi vite que possible ». Fin de citation. « Nous voulons des élections parfaites, pas seulement des élections », a-t-il ajouté, expliquant que l'enregistrement des électeurs était en cours et se déroule bien. Interrogé sur une éventuelle réforme de la Constitution qui lui permettrait de postuler à un troisième mandat, le chef de l'État congolais lance « Je suis très clair là-dessus ». Tout ce blabla sur un changement constitutionnel est un non-sens total. Dans la Constitution, il y a le mot référendum. Vous pouvez modifier la Constitution par référendum, mais nous n'avons pas encore demandé un référendum. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore organisé de réunion ou de discussion sur la façon de modifier la Constitution, a-t-il poursuivi. Lorsque le journaliste allemand revient à la charge pour demander s'il n'y aura pas de troisième mandat pour lui, Joseph Kabila répond, je cite, « Cela dépend du terme troisième. Nous n'avons pas l'intention de violer la Constitution. » Fin de citation.
Merci Alain Hirung. Jean-Jeff Moinza, directeur général de l'agence de presse Vision Info. La presse, dans sa quasi-majorité, est revenue cette semaine sur cette interview du chef de l'État. C'est comme, par exemple, le potentiel qui a titré sur sa manchette. Interview de Kabila à Der Spiegel, contradiction et langue des bois, ça c'est le potentiel. Et la majorité des journaux quinois ont abondé presque dans le même sens. Comment vous comprenez les traitements faits par la presse quinoise de cette interview du chef de l'État?
Je pense, à mon avis, que c'est un traitement un peu biaisé, trop rigoureux, à mon avis, parce que il ne faut pas qu'on cherche à créer un dictateur, il ne faut pas que l'on veuille à tout prix prêter des intentions à Joseph Kabila. En fait, je vais dire ici, comme lui-même l'a dit, qu'il n'y a jamais eu des intentions. Quelqu'un vous dit clairement qu'il n'y a jamais eu une réunion sur laquelle on discute sur un référendum ou sur laquelle on parle d'un troisième mandat. Il vous dit qu'il veut que les élections soient organisées dans un bref délai, mais de manière à ce que nous puissions avoir de bonnes élections. Pourquoi est-ce que nous pouvons avoir notre analyse à nous? Est-ce que c'est Joseph Kabila qui organise les élections ou c'est la CENI? Et lorsqu'il a dit qu'il n'a rien promis, moi je me dis, il n'avait même pas à promettre. Parce que l'accord signé, n'est-ce pas, le 31 décembre 2016, a tout déterminé. Dans cet accord, il y aura élection, et c'est la Commission électorale nationale indépendante qui est habilitée justement à les organiser conformément à notre Constitution. C'est cette communauté internationale qui devra nous donner le calendrier électoral. C'est cette commission d'État qui devra, n'est-ce pas, promettre les élections. Et sur base de quoi on attendrait que Joseph Kabila donne l'assurance de l'organisation des élections d'ici la fin de cette année? Il n'a pas mandat, il n'a pas qualité. Il est vrai que la commission électorale nationale financièrement dépend du gouvernement. Le gouvernement, n'est-ce pas, qui est sous la direction de Joseph Kabila. Mais attendre que Kabila dise un mot sur la tenue des élections, c'est vraiment trop demandé à mon avis. Il faut qu'on se mette, n'est-ce pas, à mobiliser la population pour l'enrôlement. Pour une fois, j'ai trouvé l'IDPS un peu réaliste, parce qu'ils ont appelé leurs militants à l'enrôlement, ce qui n'avait pas été le cas dans les années antérieures. Quand l'IDPS ne voit pas clair, elle n'appelle pas à l'enrôlement. Mais cette année, en tout cas, j'ai vu que l'IDPS est en train de mobiliser, qu'on se prépare justement pour que les élections soient organisées de la plus bonne manière.
Merci Edmond Izouba, journaliste à la RTVS, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. La presse kinoise a fait un traitement biaisé, rigoureux, n'est-ce pas, par rapport à l'interview du chef de l'État.
Parce que ses propos non plus n'étaient pas... Vous avez lu ses propos. Moi, je commence d'abord par saluer cette lucidité du président de la République, rester à l'écoute des journalistes pendant plus d'une heure. J'ai eu à enquêter sur cette interview. Il y a plus de 30 questions. Le président de la République répondait à toutes les questions, bien que toutes les réponses n'étaient pas du tout satisfaisantes. Mais le président de la République a péché sur beaucoup de choses et sur le matière attendue par la population, d'où la déception de la presse congolaise. Vous avez vu, quand on pose la question à un président de la République sur des questions aussi simples que des élections, le président de la République répond qu'il n'a rien promis du tout. Il se moque de qui, franchement? Le président de la République est celui qui a promis les élections à la population congolaise. Il est le premier à les promettre quand il prête serment. Et quand il ne respecte pas cette constitution, il ne respecte pas la population congolaise.
Mais la question du journaliste, c'est la promesse que vous avez faite d'organiser des élections à la fin de l'année 2017. Est-ce qu'il a fait une telle promesse?
Oui, le chef de l'État a promis. Moi, je l'ai suivi. Quand il est venu en 2011, il a dit tout ce qui disait des choses sur lui, qu'il sache que la réponse dans toutes leurs demandes est prévue par la Constitution. Alors quand on lit la Constitution parlait des élections au mois
de novembre
que le président de la République n'a pas
respecté.
Alors le journaliste a même ouvert une brèche pour lui donner cette possibilité d'être un peu plus clair auprès de la population. Le président est resté évasif. Alors il est allé tout droit pour dire que voilà, concernant le référendum, nous n'avons pas encore, quand il dit nous n'avons pas encore, ça veut dire qu'il y a encore cette possibilité de les faire. Pourtant, il sait qu'il est déjà hors de son mandat.
Et donc, comme le dit le potentiel, il a utilisé la langue des bois.
Il a utilisé la langue des bois, mais le chef de l'État vraiment n'a pas eu du tout le respect envers la population congolaise. Il a pourtant l'obligation de rendre compte à la nation. Alors, on attendait des précisions pour le président de la République à ce qui concerne également la décrispation de la situation politique du pays, les cas de Moïse Katumbi, les cas de beaucoup d'autres prisonniers politiques du pays. Le président a botté en touche toutes ces questions, il est resté aussi évasif. Alors, quand est-ce que le président sera clairement ou s'exprimera clairement auprès de la population?
Merci.
C'est le moment le plus attendu parce que là, il y a encore des craintes. Il y a des craintes. Nous ne savons pas qu'est-ce qui arrivera à la République démocratique du Congo. Et surtout quand il y a des rumeurs qui gagnent la place publique, qui gagnent même la presse congolaise et que la présidence communique peu.
Merci Cyprien Lusenge, journaliste et reporter à la radio-télévision Michapi, émettant des Goma au Nord Kivu. Les chefs de l'État, les amis journalistes ont commencé à les relever ici. Le chef de l'État a répondu au sujet de la question sur les élections. Il dit qu'à ce sujet, il n'a rien promis du tout, mais il dit qu'il souhaite organiser des élections aussi vite que possible. Cette réponse a suscité une certaine polémique. Les uns interprètent cela comme l'expression de la volonté du chef de l'État de refuser, n'est-ce pas, d'organiser des élections telles que prévues dans l'accord du 31 décembre. Les autres, par contre, estiment que le chef de l'État a raison de donner cette réponse, étant donné que lui n'a pas participé directement négociation du centre interdiocésain.
Vous savez, mes chers amis, ce qui est décevant dans ce pays, c'est que les gens ne savent plus s'exprimer, les gens ne savent plus parler, parce qu'on est peut-être étouffé par la question des intérêts. Cette interview, franchement, a été une grande déception, ça, de la population du Nord Kivu. C'est inconcevable que tout un chef de l'État dise qu'il n'a rien promis. Alors, s'il n'a rien promis, pourquoi il est là? Quelle est sa mission? Quel est son travail? Et la question la plus importante comme élection, quand vous dites que vous n'avez rien promis, franchement, c'est décevant. Vous avez remarqué que À un certain moment, nous avons essayé de contacter la population. On a fait un petit tour au sein de la population et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on n'avance pas, on ne sait même pas où on va, et à tel point que c'est plus un sentiment de déception par rapport à toutes ces gesticulations politiques et tout ce qu'on est en train de concevoir comme mots et comme tournures. Je crois, si la CENI attaque l'institution d'appui à la démocratie, sa mission c'est d'organiser, mais le patron, enfin c'est lui qui doit assurer les financements, c'est le chef de l'État. Et renvoie la question à la CENI pour dire que c'est à la CENI qui saura comment est-ce qu'elle va organiser les élections. Et moi, je crois que c'est une fuite de responsabilité. Et là, on a contacté certaines couches de la population, couches sociales. On s'est rendu compte que finalement, si les patrons, notre patron, le chef de l'État, ne sait pas se prononcer clairement sur l'action des élections, mais qui se prononcera? Qui se prononcera? On essaie de mettre l'accent sur les référendums. On ne sait pas. Est-ce qu'il est opportun? Est-ce que pour le moment, la question, c'est les référendums ou ce sont les élections que tout le monde attend? Et n'oubliez pas, il y a d'abord un calendrier qui était publié, je ne vais pas revenir sur les détails, qui a déçu les gens, à tel point que certains qui ont postulé ont estimé qu'il fallait qu'on leur remette leur argent. Bon, évidemment, la question a été gérée comme elle a été gérée. Et au lieu de se rattraper, malheureusement aussi, au lieu de se racheter, le gouvernement actuel s'arrange, se contente de créer une sorte d'imbroglio pour qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Vous allez remarquer, mon cher ami Guy, quand on va sur terrain et on pose des questions à certains citoyens de Goma, en particulier ceux qui vont en général, et ce qui est pire, les gens ne veulent plus se prononcer. Parce qu'on a comme l'impression qu'on n'avance pas, on répète des histoires, on ne fait que crier. Et comment expliquer que quelqu'un dit on n'a jamais tenu une réunion pour dire qu'il n'y aura pas élection? C'est évident. Officiellement, on ne peut pas dire qu'il y a une réunion tenue pour dire qu'il n'y aura pas élection. Et moi, je crois que, quelque part, d'une manière résumée, renvoyer la question d'élection à la CENI seule, c'est une fuite de responsabilité. Si dans cette question, tout le monde parvenait à traiter, à prendre sa part et la traiter avec lucidité, et je crois qu'il n'y aura pas de soucis. Plusieurs fois, il y a eu des réunions, il y a eu des accords qui ont été signés, il y a eu des idées qui ont été avancées, mais qui n'ont jamais malheureusement été appliquées. On perd le temps en concevant des termes, des nouveaux concepts, juste pour embrouiller la population. Merci. Et nous, comme de la presse, surtout ici au nord qui vous, nous avons du mal. Parfois, on a honte quand on passe dans des avenues, des quartiers, des villages. La population, finalement, commence à nous prendre. Ils pensent que nous, la presse, on y est aussi pour quelque chose, parce que ce que nous disons, ça ne se réalise pas. Nous avons des nouvelles histoires, des nouveaux concepts, et qui n'avancent toujours pas. Et moi, j'estime que cette question, elle doit être traitée avec lucidité, avec tous les sérieux.
Merci, Cyprien.
Je me dis, le journal d'Eder Spiegel, je ne sais pas si je l'ai prononcé, a fait son travail. Et dans notre co-débatteur, je crois, c'est Idouba qui a dit que... On a créé un dictateur. Non, je ne pense pas qu'un journal aussi sérieux que Der Spiegel puisse créer des mots que les chefs d'État n'ont pas prononcés.
Merci Cyprien. Merci Jean-Jeff Moisa. Edmond Idouba évoque le fait que le chef d'État est resté évasif. Il n'a pas apporté des précisions sur des questions importantes, n'est-ce pas? Il y a aussi notre ami Cyprien Lusenge qui vient de parler. Il dit que cette interview est une déception pour le Nord Kivu. Vous le savez très bien, nous sommes dans un contexte politique particulier et que les textes aujourd'hui de référence, c'est l'accord du 31 décembre. Mais lorsqu'on suit le chef de l'État, qui, dans ses réponses, ne revient pas souvent sur cet accord, est-ce que vous, personnellement, ça ne vous inquiète pas?
En fait, j'aimerais ici que nous soyons beaucoup plus clairs. Il faut reconnaître d'abord une chose, c'est vrai que l'accord du 31 décembre est la base de tout, mais nous ne devons pas ignorer. Ça, en fait, on a trop trompé la population congolaise et j'ai comme impression que la classe politique actuelle continue dans cette démarche. La tenue des élections en 2017 n'est que pure utopie. Tous le savent. Tous ceux qui ont participé, n'est-ce pas?
C'est vous qui le dites, hein?
C'est vrai! Tous ceux qui ont participé à la signature de l'accord, tous ceux qui ont participé aux discussions de la CENCO le savent.
Et donc, ils ont trompé la population.
Ils ont trompé la population et la communauté internationale. L'objectif était de dépasser d'abord la date du 19 décembre. Ils savaient qu'il était impossible d'organiser les élections en 2017. Et le rapport de l'OIF le prouve aussi. L'OIF dit qu'on ne peut avoir les élections qu'en fin 2018 ou avril 2019. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y aura pas élection en 2017.
Et donc, vous voulez dire par là que le chef de l'État n'a pas donné de précisions sur cette question-là parce qu'il lui-même estime que c'est utopique.
Je peux, n'est-ce pas, conclure de cette façon. Il sait qu'en 2017, il n'y aura pas d'élection. On ne veut pas dire la vérité à la population. Il faut qu'on dise la vérité, qu'on leur dise, voilà, il y a ceci, il y a cela, compte tenu de ces éléments. Il n'y aura pas d'élection en 2017.
Mais dès lors que la CENI, qui est l'organe voilà technique, est en train de faire son travail, et la CENI n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'élection cette année, et vous pensez que les gens pouvaient se permettre déjà aujourd'hui d'affirmer qu'il n'y aura pas d'élection cette année?
La CENI fait son travail, oui. Mais je vous rassure que même si je ne veux pas parler de mes propres analyses, je prends d'ici le rapport de l'OIF qui parle de la fin de l'année 2018 et du mois d'avril 2019. C'est parce qu'on s'est basé sur les éléments réels. J'ai suivi le président de la Commission nationale électorale indépendante qui a dit qu'à la fin de l'enrôlement, il faudra mettre toutes les données ensemble. Il faudra, n'est-ce pas, essayer de ressortir les doublons et autres qui ne pourront pas prendre part aux élections. Il faudra justement aussi que l'Assemblée nationale puisse donner une loi électorale. Il faudra aussi une loi sur la répartition des sièges. Ça ne pourra pas se faire dans 6 mois. C'est pratiquement impossible. Merci. Il faut que la classe politique se ressaisisse, qu'elle vienne vers la population, majorité, opposition, qu'on dise la vérité à la population, qu'on leur dise qu'apaisez-vous, soyez tranquilles, les élections ne peuvent se tenir que, si possible, à la fin de l'année 2018, ou peut-être en 2019, comme a dit l'OIF.
Merci Edmond Izouba. Votre réaction par rapport au propos de Jean-Jeff Mwanza?
Vraiment, je m'interdis de commenter ce propos parce qu'il ne donne aucune technicité pour l'organisation des élections en 2019. Pourtant, la CENI lui-même
affirme... Je pense que l'OIF a donné quand même des éléments. Je me base sur ce qu'a dit l'OIF et je me base...
C'est pas l'OIF qui organise les élections en RDC, c'est plutôt la CENI. Moi, je préfère écouter le président de la CENI qui a affirmé devant nous, devant la presse, national comme international, qu'il y aura bel et bien élection si le gouvernement disponibilisait les moyens à temps. Donc, je prends ces propos de Corneille Nangaa, si c'est la démagogie, il ose faire la politique dans une institution qui n'appartient pas aux acteurs politiques, il aura des comptes à rendre. Donc, je voulais dire quelque chose de très fondamental. Ce pays, ici, n'est pas un don béni d'une classe politique, que ce soit de la famille politique, du chef de l'État, tout comme de l'opposition. Ce n'est pas un don béni de Joseph Kabila non plus, qui a eu le règne de ce pays, qu'il estime diriger comme s'il était dans un poste de carrière. Non, il est président, il a été élu sur base d'un mandat. Arrivé fin mandat, il doit quitter parce qu'il a déjà épuisé tous ses mandats. Alors, nous ne sommes pas non plus les otages de la majorité présidentielle. Cela doit être clairement dit. Moi, j'estime que c'est le moment de dire la vérité au président de la République parce que, apparemment, personne ne peut encore lui dire, voilà, le chef de l'État, c'est fini pour vous. Voilà, vous avez déjà fait 2 mandats. Voilà. Mais nous avons plutôt une classe politique, notamment la majorité présidentielle, incapable de dire au président de la République.
Est-ce qu'on peut revenir sur l'interview du chef de l'État?
Lorsque,
par exemple, il évoque. Lorsqu'on lui pose la question sur le troisième mandat, lui, il estime que c'est du blabla, il n'y a jamais eu des réunions à ce sujet. Est-ce qu'il n'a pas raison?
Non, parce qu'il estime, il est déjà en train de consommer son troisième mandat. Il sait pourquoi il l'a fait, pourquoi il agit ainsi, pour nous diriger sans pour autant passer par élections en violation flagrante de la Constitution. Comment est-ce qu'ils ont gouverné de 2011 jusqu'en 2016 pour dire à la population, voilà, nous n'avons pas réuni de moyens pour organiser les élections? Même quand j'ai lu dans cette interview, il invente le problème sécuritaire. Ça, ce n'est pas la raison. Quand vous prenez les dépenses de prestige exécutées pendant de 2011 plutôt en 2016, rendez-vous compte que c'est au-delà des 500 millions de dollars. On a promis ici un marché international de Kinshasa avec 100 millions de dollars. Le marché là se trouve où? On nous a promis ici Bukangalonzo avec des dépenses qui ne sont pas budgétisées, des dépenses qui ne sont pas alignées. Alors, vous avez vu comment nous avons assisté à une gabegie financière et puis après pour nous inventer des prétextes qui ne tiennent pas debout. Il y aura élection, la population va se tenir debout pour défendre cet accord signé à la CETO.
Merci, le message est passé. Cyprien Lucien. Singe, lorsque vous suivez Jean-Jeff Mwanza avec tous les paramètres qu'il a relevés par rapport au processus de révision de fichiers électoraux, si le chef d'État est au courant de tous ces paramètres-là, vous pensez qu'il pouvait se permettre de faire des promesses quand il sait que les conditions n'étaient pas réunies pour que ces promesses puissent se réaliser cette année?
Mais, mon cher ami, est-ce que le chef de l'État peut être au courant ou alors c'est celui l'acteur principal? Parce qu'en fait, nous, la population a les yeux seulement braqués sur lui. On suppose que c'est lui qui a la dernière vérité et c'est vraiment une réalité, c'est pour qu'on le dise comme ça. Moi, j'estime que quelque part, c'est une question de responsabilité. J'insiste encore sur ces mots-là. Parce que si on peut arriver à admettre, moi je crois qu'il faut qu'on ait seulement le courage. Les collègues l'ont dit, il faut qu'on ait le courage d'aborder la question de l'élection avec tous les sérieux, en se disant des vérités. On n'est pas un otage d'une classe ou d'une famille politique. Il faudra aussi que peut-être les acteurs politiques du Congo arrivent à comprendre qu'il faut aussi parfois accepter de céder parfois. Il y a aussi la continuité qui n'est pas lié à un individu. Et moi, je me dis, par exemple, est-ce que les accords, entre nous, sont sérieux, est-ce que les accords qu'on a signés, que ce soit de c'est pas moi, Kachachi, etc., c'est pas moi, toutes les dates possibles que vous connaissez là, est-ce que ces accords viennent annuler la constitution du pays? Si on trouve qu'il y a des ambiguïtés dans certaines questions, les accords qui sont déjà signés, mais qui n'arrivent pas à répondre d'une manière concrète à des besoins précis, est-ce qu'on ne peut pas aller vers la Constitution pour l'interroger aussi, pour voir ce qu'elle dit, s'il y a un souci, quand on finit un mandat alors qu'on n'a pas su organiser l'élection? Et moi, je me dis, c'est question de la volonté et le courage de dire la vérité à la population, parce qu'elle a soulevé quelques secondes avant moi. Vous dites à la population, écoutez, il y a un souci, nous avons déjà fait un mandat, mais on ne peut pas organiser l'élection. On rentre dans les textes, nous avons des beaux textes qui régissent le pays, on les interroge, et les textes vont nous guider. Ce sera très simple comme ça, il n'y aura pas de soucis. Il n'y a rien de ridicule à échouer. Parfois on peut échouer. Quand on échoue, c'est d'ailleurs une expérience.
Merci.
Il y a des grands dans l'histoire qui ont échoué plusieurs fois, mais ils se sont rattrapés. Et puis ce n'est pas un péché, il y a des ridicules quand on a échoué.
Merci. Et donc, la classe politique doit s'assumer. Merci. Nous passons au deuxième thème de ce soir. Le gouvernement congolais accepte toute collaboration avec les Nations Unies dans les enquêtes sur toutes les violences survenues dans l'espace kasaïen. Déclaration de la ministre congolaise des droits humains qui précise que le gouvernement va garder la direction de ces enquêtes. Cette réaction intervient après la menace du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme d'ouvrir une enquête internationale sur les massacres au Kasaï s'il ne recevait pas du gouvernement congolais des réponses appropriées. Zaïd Rad El Hussein l'a déclaré mardi dernier à l'ouverture de la 35e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Jeff Ngoy nous résume ses propos.
Monsieur Hissène réclame depuis mars la création d'une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme sur les violences en RDC après la découverte notamment des charniers. À l'issue de chaque session du Conseil, 47 États membres peuvent décider à travers l'adoption des résolutions de diligenter des enquêtes internationales comme il en existe pour la Syrie. La pression exercée par Hissène sur la RDC intervient alors que des ONG, notamment Human Rights Watch, exigent avec persistance l'ouverture d'une l'enquête sur les violences meurtrières commises depuis septembre au Kasaï, dans le centre de la RDC. Lundi, les États-Unis ont appelé également les Nations Unies à créer une commission d'enquête sur les meurtres en mars de deux experts de l'ONU qui cherchaient à prouver l'existence de fosses communes dans le pays. C'est depuis le mois de septembre que la province du Kasaï est secouée par la rébellion de Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire, après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. D'après l'ONU, ces violences ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement d'environ 1 million de personnes.
Et à ce propos, le gouvernement congolais dit accepter toute collaboration des Nations Unies dans les enquêtes sur toutes les violences survenues dans l'espace kasaïen. C'est ce qu'a déclaré la ministre congolaise des droits humains dans une interview accordée à Radio Kapi. Marie-Ange Bouchobekwa est au micro d'Étienne Kalema.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a rien à cacher et que nous restons ouverts à tout appui technique, logistique et que si l'ONU voudrait nous envoyer des experts père en appui aux enquêteurs congolais pour mettre la lumière dans l'assassinat de Sharpe et Catalane, ainsi que d'autres Congolais qui ont été lâchement assassinés par les miliciens de Kamuina Nsapu. Ces équipes seraient les bienvenues, mais je souligne que le gouvernement de la République démocratique du Congo va garder la direction des enquêtes.
Si je comprends bien, il est hors de question que la République démocratique du Congo accepte une commission d'enquête indépendante.
Ce sont les mots que vous utilisez, des mots très forts. Nous disons que nous acceptons la collaboration, nous acceptons que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme vienne en appui aux équipes d'enquêteurs de la République démocratique du Congo, mais le gouvernement de la République démocratique du Congo garde la direction des enquêtes.
Edmo Idzuba, journaliste à la RTVS, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa, comment vous réagissez à ces débats sur la nature des enquêtes qui doivent être mises en place, n'est-ce pas, par rapport aux violences dans l'espace kasaïen?
S'il faut faire une très bonne autopsie, vous allez vous rendre compte que nous venons là de relever des signes d'un pouvoir vacillant, d'un pouvoir finissant, ça s'appelle des tâtonnements. C'était une demande datant des ONG de défense des droits de l'homme local, demandée officiellement. J'ai lu plus de 185 ONG locales qui demandaient à ce qu'il y ait des enquêtes. Le gouvernement n'a pas répondu à cette demande. Et pratiquement, quand
non, mais le gouvernement a estimé qu'il y avait des enquêtes qui étaient en cours, n'est-ce pas, puis, faites par les Congolais.
Alors, le gouvernement avait voulu que ces enquêtes restent comme telles. Maintenant, vous avez suivi ces menaces du
commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
Voilà, le gouvernement change de langage. Nous n'avons jamais refusé, nous n'avons jamais dit ceci, patati patata, les tâtonnements. Voilà comment on change de ministre chaque jour, on change de premier ministre chaque jour, parce qu'on ne sait pas le pays va dans quel sens.
Mais il y a un fait, le gouvernement dit accepter, n'est-ce pas, toute collaboration avec les Nations Unies, mais précise qu'il va garder la direction de ses enquêtes.
Ça ne veut rien dire, garder la direction, ça c'est un vocabulaire qui ne vient que du ministre des droits humains. Non, mais quand déjà quelqu'un participe dans les enquêtes, la direction, c'est le pays qui enquête sur les dossiers, mais du moins, les Nations Unies auront eu à participer. Je crois qu'ils ne seront pas là comme des observateurs passifs. Ils viendront en actif parce qu'ils viendront, je parie même que le matériel qui seront utilisés dans ces enquêtes seront le matériel des Nations Unies, parce que je ne pense pas dans notre pays que nous puissions avoir des matériels aussi sophistiqués que ceux des Nations Unies, les matériels capable de détecter les empreintes de plus de 120 jours, de plus de mois passés. Donc j'estime que l'apport des Nations Unies dans ces enquêtes est d'ordre logistique, mais aussi qu'ils ne puissent pas rester dans le passif, parce que nous n'avons jamais connu des enquêtes dans ces pays quand il y a une demande de la population, des enquêtes qui vont jusqu'à la fin.
Merci.
Nous espérons qu'avec l'implication des Nations Unies dans ces dossiers, nous connaîtrons la vérité, parce que la population
a besoin de la
vérité. Il y a beaucoup de familles qui ont été victimes de cette situation, beaucoup
merci,
de fausses
commis, compris.
Beaucoup de disparus. Alors, nous avons soif de la vérité.
Jean-Jeff Mwanza, directeur général de l'agence de presse Vision Info. On vient de suivre Edmond Idzuba. Peut-on dire que le gouvernement a cédé à toutes ces menaces de la communauté internationale?
J'aimerais d'abord dire à Edmond Idzuba que le gouvernement congolais n'a jamais dit non aux enquêtes. Si cela était vrai, Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias, n'allait pas présenter une vidéo, n'est-ce pas, sur l'exécution ou l'assassinat de ces deux experts. C'est-à-dire, la présentation de ces vidéos, la projection de ces vidéos, était, n'est-ce pas, les résultats des enquêtes menées par le gouvernement congolais. Et dire que le gouvernement a cédé, je dirais non. Le gouvernement a plutôt, parce que les ONG dont il fait allusion ont exigé une enquête indépendante.
Internationale.
Voilà, une enquête indépendante internationale. Ça dit que ces experts des Nations Unies viennent en RDC, indépendamment, n'est-ce pas, du gouvernement congolais, indépendamment, n'est-ce pas, des administratifs du Kasaï, c'est-à-dire il se charge des enquêtes, il se charge de tout, bien qu'il ne connaisse même pas le territoire congolais, c'est tout à fait inacceptable. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays qui fonctionne, qui a des institutions qui fonctionnent normalement. On ne peut pas comprendre qu'une enquête soit mise en place comme si on était encore à l'état indépendant.
Et donc, ce qui est acceptable aujourd'hui, c'est une enquête conjointe.
Une enquête conjointe, évidemment. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance en notre justice.
Toutes les pourquoi, à votre avis, monde, pourquoi on n'a pas confiance en notre justice? Est-ce que ce n'est pas le gouvernement congolais qui donne des arguments à cette communauté internationale? C'est comme par exemple lorsque le gouvernement se permet de rendre publique la vidéo sur l'assassinat des deux experts des Nations Unies, alors que les enquêtes étaient en cours. Et il y a même des experts qui ont vu en cela, n'est-ce pas, la volonté du gouvernement de vouloir orienter les enquêtes. Est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui donne des arguments à la communauté internationale?
Ici, je ne défends pas les gouvernements, mais si le gouvernement, par l'entremise de Lambert Mende, a dû présenter ces vidéos, c'est parce qu'il y avait, n'est-ce pas, des procès d'intention, il faut les reconnaître. On disait que ces experts ont été, n'est-ce pas, tués par les militaires. Et maintenant que le gouvernement détient les images dans lesquelles on voit des milices, n'est-ce pas, tirer sur ces experts, comment est-ce qu'ils pouvaient continuer à les garder? Bon, ce que j'aimerais dire ici, c'est juste faire voir aux amis ou aux auditeurs de la radio Capi qu'il y a des failles partout dans toutes les justices du monde. Il ne faut pas faire voir comme si la justice au Congo est la seule où rien n'est bon, où tout peut se dire, tout peut se décider. Non, non.
Merci. Merci Cyprien Lusenge, journaliste et reporter à la radio-télévision Michapi, émettant de Goma au Nord Kivu. Comment vous comprenez l'exigence de cette communauté internationale qui tient mordicus à une enquête internationale sur les violences au Kasaï? Vous avez suivi Jean-Jeff Mwanza qui estime que tout serait lié à la méfiance que cette communauté internationale aurait vis-à-vis de la justice congolaise.
Mais je vous dis, cette menace pour le Nord Kivu, c'est un salut. C'est un salut, c'est vraiment un courage et saluer. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, c'est depuis très longtemps. Il y a même la société civile du Nord Kivu qui avait exigé qu'il y ait des enquêtes internationales, une enquête internationale indépendante pour les cas qui ont secoué la partie nord du Nord Kivu. C'est-à-dire, on dit que c'est cette menace, c'est un salut, d'autant plus que ces enquêtes, si elles arrivent à être mises en place, une enquête internationale indépendante, elle permettra de tirer au clair et d'éviter ces jeux de ping-pong qui se déroulent entre les autorités. Et parce que parfois, on dit que non, on cite Clément Kangou qui rejette la balle chez Bouchard de la Séminaire de l'Intérieur et on ne comprend plus rien. Et on a comme l'impression que dans ce pays, il y a des gens qui ont le droit de tuer et, parce qu'ils sont couverts par on ne sait pas qui. Et puis, on s'arrange pour créer une confusion et pour qu'on n'arrive pas à avancer. Et moi, j'estime, au niveau des autres qui vous, même quand on a contacté certains amis, on a compris que cette menace, en tout cas, arriver à produire des effets positifs, ce sera un salut. Et on partirait du cas de Kasaï pour revenir sur d'autres cas qui ont été évoqués auparavant. C'est depuis très longtemps que les enquêtes internationales indépendantes
Cyprien
n'ont jamais été acceptées dans ce pays.
Cyprien.
Et puis il faut souligner que même si le pays, la RDC n'a jamais refusé une enquête indépendante, mais elle avoue avec un retard. Je crois que quand on a diffusé la première vidéo, quand on a dénoncé les premières violations dans le cas des Kasaï, il y a tout un problème, il y a le gouvernement congolais qui a réagi, qui on a même
merci,
lancé des dossiers ratés pour finir par accepter après. Et moi je crois que c'est une très bonne chose, même il y a certains acteurs là, des défenses des droits de l'homme au niveau local, qui estiment que ça c'est très important.
Merci Cyprien.
Une opportunité de revenir sur d'autres cas de violations.
Merci, nous avons compris. Merci. On va finir par là. Edmond Idzouba, et comment vous entrevoyez la suite? Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un scénario où des enquêtes parallèles se font sur les mêmes problèmes?
Moi, je dois le dire parce que les Nations Unies est la première institution à être concernée parce que ceux qui ont été tués sont membres d'abord des Nations Unies. Les Nations Unies doivent également prendre part. Mais je voulais également dire à la population qu'il y a des questions qui ne pouvaient pas se passer comme ça, des questions qui font fâcher la population, des questions qui touchent aux droits fondamentaux de la population, des questions d'ordre à la vie, des questions de violation de droits de l'homme.
Je sais que le temps, c'est le temps. Nous avons fini, mais j'aimerais qu'on dise, n'est-ce pas, aux auditeurs que toutes les justices du monde ont des faiblesses.
Vous l'avez déjà dit.
Ne sont pas ainsi incapables de traiter des problèmes de leur société.
Merci.
La nôtre aussi est capable, qu'on la fasse confiance. Ainsi,
merci.
Nous aurons la vérité.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique, à Alain Irung qui a coordonné et réalisé cette émission sous la supervision de Suzanne Zobo, à la présentation Guy Maté. Merci à la semaine prochaine pour un autre numéro des Tribunes de la Presse. Et bon week-end sur Radio Okapi.